Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion, des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour, ce mois-ci, j'ai choisi de vous parler d'un livre de Jean-Claude Michéa. Son titre, c'est « L'Empire du moindre mal », avec un sous-titre « Essai sur la civilisation libérale ». C'est un ouvrage qui date déjà de 2007 et qui a été édité aux éditions Climat. Alors, quelques mots sur Jean-Claude Michéa. Jean-Claude Michéa, il est né en 1950, donc c'est un contemporain, il vit encore. Et c'est un fils de résistant communiste, il a étudié la philosophie à la Sorbonne. Après son agrégation, il a fait un bref passage à l'extrême gauche durant la période de mai 68. Et puis, il a pris sa carte au Parti communiste. Et il s'est écarté du Parti communiste en 1976, par opposition au régime soviétique. Donc il a été professeur de philosophie toute sa carrière, toute sa vie, au lycée Joffre de Montpellier. Et donc il a pris sa retraite en 2010. Alors Michéa, il a eu une évolution, passant de l'extrême gauche au Parti communiste, comme on va le voir dans cet essai. Il a écrit son premier ouvrage en 1995, il avait déjà 45 ans. Et son premier ouvrage s'appelle « Orwell, anarchiste, Tory ». C'est un ouvrage donc sur Orwell, comme son nom l'indique. C'est vrai que Michéa s'est beaucoup intéressé à George Orwell. Alors après, suivront une dizaine d'ouvrages et dans lesquels on retrouve des thématiques chères à Jean-Claude Michéa, donc le libéralisme, la gauche, Orwell, le socialisme, les gens ordinaires, etc. Il a aussi fait connaître en France la pensée du sociologue américain Christopher Lasch, dont j'ai parlé dans un marque-page précédent, et dont il a préfacé plusieurs livres dans leur édition française, parmi lesquels « La culture du narcissisme » ou encore « Culture de masse, culture populaire ». Voilà pour Jean-Claude Michéa. Alors, c'est un penseur et un auteur iconoclaste et inclassable. Michéa, de la même façon qu'Orwell, dont j'ai dit qu'il avait étudié de façon approfondie et sur lesquelles donc, il a écrit, Michéa donc, est souvent dérangeant et il est tout particulièrement sévère avec la gauche, qu'elle soit social-libérale ou d'extrême-gauche, comme elle aime à s'appeler. Alors, L'Empire du moindre mal, l'ouvrage dont je vous parlais aujourd'hui, c'est le 7e ouvrage de Jean-Claude Michéa. C'est certainement son essai le plus abouti, dans tous les cas, dans lequel il développe le mieux sa thèse. Et il y reconstitue la genèse historique et intellectuelle du libéralisme comme mouvement de la double pensée, et ça c'est la thèse spécifique à Jean-Claude Michéa, donc le libéralisme politique et économique. Alors, on le constate tout de suite dans le sous-titre de son ouvrage, « Essai sur la civilisation libérale », Michéa parle non pas d'une économie libérale ou d'une politique libérale, mais bien d'une civilisation libérale. Et c'est pas neutre, parce que pour lui, le libéralisme, c'est bien un fait social total. Il reprend ce concept qui a été développé par Marcel Mauss. Donc Michéa, il nous explique que ces deux côtés de la médaille, donc le politique et l'économique, trouvent leur origine à la même époque et sont indissociables et complémentaires. Alors, il nous explique que, produit de la Révolution française et de la philosophie des Lumières, forgé dès le début du XVIIIe siècle par des penseurs comme Locke, Montesquieu ou encore Mandeville, avant même de désigner un système d'organisation économique de la société, la doctrine libérale fut d'abord conçue par ses pères fondateurs comme la réponse politique au problème des conflits idéologiques meurtriers qui ont ravagé l'Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Je vous rappelle une période avec énormément de guerres, avec une technique de guerre qui évolue, donc beaucoup plus meurtrière, et surtout, beaucoup de guerres qu'on a appelées les guerres de religion, donc des guerres idéologiques, et qui se sont transformées donc en guerres civiles. Et ça a traumatisé notre pays et l'Europe. Et donc, c'est vrai que les philosophes cherchaient une solution par rapport à cette problématique-là. Et donc, l'axiome de base de la doctrine libérale, c'est la suivante. Et là, je cite, « Si la prétention de certains individus à détenir la vérité sur le bien est la cause fondamentale qui porte les hommes à s'affronter violemment, alors les membres d'une société ne pourront vivre en paix les uns avec les autres que si le pouvoir chargé d'organiser leur coexistence est philosophiquement neutre, c'est-à-dire qu'il s'abstient par principe d'imposer aux individus telle ou telle conception de la vie bonne. » En d'autres termes, le libéralisme correspond d'abord, sur le plan de la genèse historique, à la tentative, inscrite dans un projet de pacification sociale, de placer l'individu aux commandes de sa propre trajectoire existentielle, à l'abri des injonctions morales et idéologiques émanant de l'État et de ses institutions. On voit bien là la problématique de la morale. Aujourd'hui, la morale, c'est un mot qu'on peut très très difficilement employer, parce qu'en effet, depuis plus de deux siècles, on nous a expliqué que c'était pas bien, en fait, que l'État, que la politique ait une morale. Et en fait, ce n'est que par la suite, et conséquemment à ce principe de la priorité du droit individuel sur l'imposition étatique, que le mot libéralisme en est progressivement venu à désigner la doctrine faisant de l'initiative privée et de la libre contractualisation des rapports marchands la condition nécessaire de la prospérité des nations et de l'interface de l'État dans les affaires économiques, l'anathème ultime des sociétés modernes et démocratiques. Donc on voit bien que c'est à partir d'un projet politique que s'est développée une doctrine économique. En fait, c'est vraiment la crainte de la mort violente, la méfiance envers les proches, je rappelle, la problématique de la guerre civile, le rejet de tous les fanatismes idéologiques et le désir d'une vie enfin tranquille et pacifiée, qui donc semblait être l'horizon réel de cette nouvelle manière d'être que les modernes ne vont plus cesser ensuite de revendiquer. Et cette revendication, elle va trouver son modèle, notamment après la Révolution française, dans l'idéal bourgeois. Parce que le bourgeois, à cette époque, il faut se souvenir que c'est un commerçant, essentiellement un négociant, et que tout le monde s'accorde à le définir comme prosaïque, paisible et inoffensif. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'un modèle marchand qui devait justement empêcher les guerres. Parce que finalement, si on marchandait, si on faisait du commerce, on était toujours d'accord. Alors, c'est donc, comme nous explique Michard, un double mouvement parallèle qui conduit le libéralisme philosophique à proposer l'utopie d'une société rationnelle, plaçant le fondement même de son existence pacifiée dans la seule dynamique des structures impersonnelles du marché ou du droit. Donc en fait, on va s'appuyer dorénavant sur ce droit et sur ce marché pour constituer une nation. Le marché, on sait que c'est, on vient de le dire, les commerçants, les entrepreneurs, les entreprises. Mais le droit, c'est l'État. C'est l'État qui va être chargé de garantir l'application effective du droit. Mais c'est donc un État sans idée ni valeur, puisqu'il s'interdit de juger toutes les questions autres que techniques. Et il ne doit même plus se comprendre comme un gouvernement des hommes, mais comme une simple administration des choses, exigeant non plus des convictions politiques, mais une compétence d'expert ou de gestionnaire avisé. Et on sait très bien, on voit très bien de nos jours ce que ça a pu donner, c'est-à-dire qu'on a des gouvernements gestionnaires. Alors Michéa explique comment cette logique libérale est excessivement difficile à appliquer, en fait. Car l'état de droit libéral, il doit en permanence répondre à des revendications diverses et contradictoires émanant d'individus ou de groupes d'individus, et qui sont toutes a priori recevables, puisqu'il n'y a pas de morale, a priori, toutes les revendications sont recevables. Alors, si l'État ne peut prendre appui sur des conceptions métaphysiques particulières, il est en effet inévitable qu'il se retrouve confronté à un nombre croissant de problèmes de société, manifestement impossibles à résoudre de façon cohérente dans le cadre strictement technique. En effet, si la seule exigence est la liberté de chacun, l'État en vient à prendre des décisions totalement contradictoires. Chaque nouvelle avancée du droit pour les uns devenant une atteinte à la liberté pour les autres. Exemple, on interdit de fumer dans les rues ou dans les, dans les lieux publics, c'est une atteinte à la liberté pour les fumeurs, mais c'est un droit pour les non-fumeurs, par exemple. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres. Et donc, selon Michéa, il est à terme inévitable que le processus d'extension indéfinie des droits individuels finisse par déclencher la guerre de tous contre tous, qui était, rappelons-le, ce qui voulait être évité. Voilà où en arrive le libéralisme. Et voilà donc la thèse développée par Michéa dans cet ouvrage. Et là, je vais vous en citer un petit morceau, où il renvoie justement dos à dos la droite et sa défense du libéralisme économique et la gauche et sa défense du libéralisme politique. Donc je vous lis un extrait. La logique libérale définit un tableau à double entrée. Dans ce tableau, la droite moderne, celle qui a définitivement renoncé, depuis la libération, à rétablir l'alliance du trône et de l'autel, représente le mode d'entrée privilégié par le marché et son expansion perpétuelle. La gauche moderne, celle qui a définitivement renoncé, depuis le mai 68 étudiant, au compromis historique passé avec le mouvement ouvrier, représente le mode d'entrée privilégié par le droit et sa culture transgressive. C'est pourquoi le clivage droite-gauche, tel qu'il en est venu à fonctionner de nos jours, est la clé politique ultime des progrès constants de l'ordre capitaliste. En effet, il permet de placer en permanence les classes populaires devant une alternative impossible. Et on le voit bien aujourd'hui, je pense que tout le monde en est conscient. Soit elles aspirent avant tout à être protégées contre les effets économiques et sociaux immédiats du libéralisme. Licenciements, délocalisation, réforme des retraites, démantèlement du service public, etc. Et il leur faut alors se résigner en recherchant un abri provisoire derrière la gauche et l'extrême gauche, à valider toutes les conditions culturelles du système qui engendrent ces effets. Donc, le libéralisme politique ou culturel. Soit, au contraire, elle se révolte contre cette apologie perpétuelle de la transgression, mais en se réfugiant derrière la droite et l'extrême droite, elle s'expose à valider le démantèlement systématique de leurs conditions d'existence matérielle, que cette culture de la transgression illimitée rend précisément possible. Quel que soit le choix politique ou électoral des classes populaires, il ne peut donc leur offrir aucun moyen réel de s'opposer au système qui détruit méthodiquement leur vie. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où on sent bien, et beaucoup de gens le sentent de façon inconsciente, en n'allant pas voter par exemple, qu'en effet, ils n'ont pas vraiment le choix, ils sont coincés entre deux types d'idéologie libérale, l'idéologie économique portée par la droite, l'idéologie politique et culturelle portée par la gauche, et que finalement, d'un côté ou de l'autre, ils sont coincés dans ce système. Voilà un peu ce qu'explique Michéa. Il revendique vraiment l'idée que la droite, contrairement à ce que peut dire souvent encore la gauche, est loin d'être conservatrice en fait, mais la droite libérale, elle porte au contraire le message vraiment de cette extrême modernité et de ce changement à tout prix. Je voulais encore vous lire un petit passage parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à travers ces idées, Michéa ou les autres auteurs qui portent ce type d'idées ont pu être taxés d'antidémocrates. Par exemple, Jacques Rancière a écrit un ouvrage, La haine de la démocratie, qui est vraiment, qui dénonce ce type de position en disant que c'est être antidémocrate. Et alors, comme Michéa, il s'attache, tout comme Orwell d'ailleurs, à dénoncer les dérives du langage, alors je vous rappelle que cet ouvrage a été écrit en 2007, et il nous dit « Dans le Figaro magazine du 6 janvier 2007, Alain Gérard Slama écrit que les deux valeurs cardinales sur lesquelles repose la démocratie sont la liberté et la croissance. C'est une définition parfaite du libéralisme. » À ceci près, bien sûr, que l'auteur prend soin d'appeler « démocratie » ce qui n'est en réalité que le système libéral, afin de se plier aux exigences définies par les ateliers sémantiques modernes, en fait, c'est-à-dire c'est la déformation du langage. En fait. Ce tour de passe-passe, devenu habituel, autorise naturellement toute une série de décalages très utiles. En effet, si le mot « démocratie » doit être à présent affecté à la seule définition du libéralisme, il faut nécessairement un terme nouveau pour désigner ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, où chacun voyait encore, il y a peu, l'essence même de la démocratie. Ce nouveau terme, choisi par nos gouvernants, sera celui de populisme. Il suffit dès lors d'assimiler le populisme à une variante perverte du fascisme classique pour que tous les effets désirables s'enchaînent avec une facilité déconcertante. Si l'idée vous vient, par exemple, que le peuple devrait être consulté sur tel ou tel problème qui engage son destin, ou bien si vous estimez que les revenus des grands prédateurs du monde des affaires sont réellement indécents, quelque chose en vous doit vous avertir immédiatement que vous êtes en train de basculer dans le populisme le plus trouble, et par conséquent, que la bête immonde approche de vous à grands pas. En citoyen bien élevé par l'industrie médiatique, vous savez alors aussitôt ce qu'il vous reste à penser et à faire. Voilà des petits extraits de cet ouvrage. Bien sûr, on ne peut pas ici en lire trop, mais bon, ça vous donne déjà une idée. Alors, on l'aura compris, c'est en vain qu'on chercherait à déceler dans les textes de Michéa la moindre trace d'une prescription politique ou d'un programme économique censé parer à la sombre faillite du modèle libéral. S'il paraît possible de dégager de ces analyses des instruments pratiques d'une insoumission à l'ordre capitaliste, dans la mesure où sa défense indéfectible déjà ordinaire nous invite à penser les moyens d'une résistance concrète et quotidienne à l'emprise du marché sur nos existences. C'est vraiment la vision de Michéa, et c'est toujours une approche, on le voit dans de nombreux de ses ouvrages, à partir de la proximité avec le peuple, avec les classes populaires. Et voilà, sur des sujets proches, on pourra lire d'autres ouvrages de Michéa. Par exemple, La double pensée, Retour sur la condition libérale, qui est paru en 2008, et également Le complexe d'Orphée, La gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès, donc toujours un petit peu le même thème, paru en 2011. Et le plus récent sur ce thème-là, c'est Les mystères de la gauche, de l'idéal des Lumières au triomphe du capitalisme triomphant, qui est paru en 2013. Alors, ne nous méprenons pas, bien que traitant du même thème, Michéa nous apporte avec chaque ouvrage un regard différent et des éléments de réflexion complémentaires. Alors, je dirais, pour conclure, si vous ne connaissez pas Michéa, si vous n'avez pas peur d'être dérangé, bousculé dans vos certitudes, si vous n'avez pas renoncé à réfléchir, comprendre et résister, alors lisez Jean-Claude Michéa. Ses ouvrages peuvent surprendre dans leur forme au départ, je ne vous en dis pas plus, mais en fait, ils sont écrits de façon très claire et pédagogique. Avec un peu d'effort, peut-être au démarrage, ils sont accessibles au plus grand nombre et ils sont totalement d'actualité aujourd'hui. Eh bien, bonne lecture et je vous dis au mois prochain.